Jean Lorrain, Les filles du vieux duc, conte pour Liane. Depuis l'aube, les trois filles du gouverneur se tenaient à la large fenêtre qui dominait la campagne, et déjà le soleil, sombré dans un écroulement de nuages roses, avait disparu de l'horizon. Dans la vaste chambre tendue de tapisseries de soie, un groupe de suivantes tourmentait doucement les cordes de théorbes et de grands archilutes. Toute la cour octogone était remplie d'un vague et délicat murmure, mais les trois sœurs ne l'entendaient pas. Leurs regards, comme leurs pensées, étaient bien au-delà des remparts crénelés de la ville, bien au-delà des champs de seigle et des cultures maraîchères des villages voisins, regards et pensées fixés au loin, très loin, vers les montagnes bleues où s'étaient enfoncés, avec ses chariots à roues pleines, ses petits chevaux maigres à crinières tressées et ses bandes guenilleuses d'enfants grimaciers et voleurs, le dernier passage de Bohémiens. Depuis un mois qu'il défilait par groupe de 25 à 100 compagnons, au pied de la ville bien gardée dans sa triple enceinte, avec, entre chaque créneau, une éclosion de têtes curieuses de bourgeois, les trois jeunes duchesses, mieux gardées encore dans la haute citadelle que gouvernait leur père, avaient vu parader, soit à pied, soit à cheval, cambrant le torse et dressant haut la tête, plus d'un seigneur d'Égypte à noire toison crépue et à face de bronze illuminée de larges prunelles d'or. Depuis un mois, amusées par la grimace et les jongleries de ces gueux, elles avaient abandonné la grande fenêtre à balcon de leur parloir qui donnait sur la place du marché et faisait face à la cathédrale. Elles avaient adopté la double ogive de leur oratoire et y passaient désormais leur beau matin et leur vesprée et leur long soir, occupés à guetter sur la route, de l'autre côté des fossés d'eau croupie, les regards de métal et le sourire à dents blanches des jeunes bohémiens. Et dans toute la ville, les femmes, celles des artisans comme celles des bourgeois, avaient pour ces païens d'Égypte la curiosité des duchesses. Il en était ainsi tous les printemps, quand ces maudits chevaucheurs du sabbat, dévalant on ne sait d'où, des marches de Bulgarie ou des provinces de Bohême, qui sait, peut-être de plus loin encore, fondés sur le pays, comme nuées de sauterelles, sur les pas, on eût dit, de leur aïeul Attila. Leurs étroites faces de maure et leurs longs yeux obliques révolutionnaient les femelles. Elles quittaient toutes, qui le rouet et la quenouille, qui la buanderie, l'église ou le cellier, pour aller s'entasser au rempart, et là, elles se poussaient du coude et riaient comme figues mûres à l'aspect des enfants nus de ces bandits. Heureux les maris, quand elles ne s'aventuraient pas, devenues libres à la façon des gouges, jusqu'au beau milieu de leur camp, parmi les tentes et les chariots. Eux, les mécréants, mettaient au pillage les manoirs et les fermes, lâchaient leurs chevaux, paîtres en pleine récolte, égorgeaient le pourceau dans l'étable et le coq au poulailler, jetaient des sorts aux femmes grosses, qui, dans 9 mois, accouchaient de chrétiens bruns comme des olives et velues à la façon des boucs, vendaient aux garçons des philtres pour enamourer les filles et soutiraient aux femmes l'argent des maris. C'était, en échange de beaux écus sonnants, de grossiers bijoux d'argent martelé, anneaux pour nouer l'aiguillette, enchaîner la fidélité et amulettes contre la fièvre dont crevaient inévitablement les patients. Horoscopes équivoques, tirés par des bouches de vieilles édentées au fond d'un chaudron, emplis dont on ne sait quel brouet puant, paquets d'herbes sèches et grands jeux de maître Albert manigancés au moyen de tarots et 1000 autres momeries qui fondaient comme en un creuset le bel et bonheur des bourgeois, le monnayaient comme leur févré, disparut tout à coup des bahuts et des cachettes en un mois envolé, englouti dans la besance obscène de ces bandits pouilleux. Et c'était ainsi depuis des années. Dès les premières pervenches au talus, ils apparaissaient dans la campagne, à cheval, à pied, faméliques et fiers, un havresac à l'arçon de leur selle, le chaudron, la fourchette de fer avec le plat d'étain, toute leur fortune enfin, sur l'échine pliée des femelles, les vieux avec les petits nus, comme des dieux impurs, entassés sur les chariots. Et toute cette tourbe chantait, dansait joyeuse sous la pluie, le vent et le soleil, raclant de la guzla avec d'allègres coups de talons qui les faisaient bondir et pirouetter, les belles filles surtout, comme au temps d'étincelles. Leurs stridents éclats de rire et leurs trépignements fous envoûtaient les carrefours. À la première étoile qui s'allumait au ciel, ils commençaient leur branle pour le continuer autour de grands feux bien avant dans la nuit, et les routes n'étaient plus sûres à cause de tous ces vagabonds cheminant par le pays. Et ce printemps, enfin, à la requête des échevins et des marchands, le duc gouverneur avait interdit à tous la sortie hors des portes durant tout le passage de ces maudits païens, et tout ce beau mois d'avril, ils avaient défilé de l'autre côté des douves et campé sous les remparts, épillés du haut des chemins de ronde et des échauguettes des veilleurs par les yeux de convoitise des femmes de bourgeois et des filles d'artisans, toutes dans leur cœur dépitées et maries contre le duc et son édit. Tout ce beau mois d'avril, où les épines sont fleuries et les chemins de campagne ont baumé par la neige des pommiers, avec du soleil partout sur les flèches d'eau de l'étang comme dans les jeunes pousses des saules, il leur avait fallu garder le logis, demeurer assises au coin de l'âtre, à tirer l'aiguille ou filer la laine, au lieu de courir par les prés cueillir la primevère. Et la consternation était dans les maisons nobles de la ville haute comme dans les taudis des faubourgs. Elle était aussi dans le palais, où les duchesses avaient coutume de faire mander, une fois durant leur passage, les plus fins musiciens des nomades, et d'écouter toute une journée leurs violonneries et leurs chansons. Mais le duc inflexible avait interdit l'entrée de la ville aux bohémiens, comme il avait défendu toute sortie de l'habitant vers leurs chariots et leurs tentes, et les jeunes duchesses en avaient conçu contre leur père un ressentiment qui montait de jour en jour à mesure que les hordes d'Égypte s'espaçaient plus rares sur les routes. Car une rumeur s'était répandue, venue des campagnes environnantes, et circulait maintenant dans la ville que les bohémiens, mécontents de l'interdit, feraient désormais un grand tour lors de leur prochain passage, éviteraient dorénavant la cité aux portes closes, et c'était la dernière fois qu'ils avaient fait halte à l'ombre des murailles, et désormais on ne les verrait plus. Il y avait déjà 2 jours que le dernier chariot de la dernière tribu s'était enfoncé lentement dans l'or du crépuscule et le bleu du paysage, avec des raclements endiablés de guitare et des gambades d'adolescents nus. Depuis, c'était le silence troublé seulement par les pépiments d'un nid, le silence accablant des campagnes que réveillera seule la faux des moissonneurs, et c'était la route déserte, serpentante et décroissant à travers les lieux, avec la tache d'un passant rare, apparu comme une fourmi, et au loin, très loin, la veillée des montagnes, immuablement debout sur le ciel pâle et gardant l'horizon. C'était le 3e soir, et depuis l'aube, les 3 filles du gouverneur se tenaient à la fenêtre ouverte, qui donne sur les champs et dans la vaste chambre, tout à l'heure remplie du babil et des chansons en sourdine des suivantes, les archilutes et les théorbes s'étaient tus. Car le soleil, déjà depuis 2 heures, avait sombré derrière les cimes violettes, et la lune montante, enfin surgit d'un petit bois de cyprès, baignait de vif argent les blêmes tapisseries du gynécée ducal. Les 3 sœurs y étaient demeurées seules, l'heure du repas ayant attiré les suivantes aux cuisines. Et l'aînée des duchesses, qui s'appelait Bélangère, et était très blanche, très grande et très sérieuse, avec des cheveux châtains et de très beaux yeux noirs, se tourna lentement vers ses sœurs, Yvelaine la blonde et Mérilde la rousse, et sans leur dire un mot, un doigt sur la bouche, leur fit un signe mystérieux. Et toutes 2, prises d'un tremblement, pâlirent et se serrèrent contre elles. Un son de viol provoquant et charmeur chantait gaiement dans la campagne, puis une voix, mais une voix de rêve tant elle était pure, attirante et triste, une voix de source, une voix de lune, une voix de fleurs qui chanterait, pleura, et les 2 jeunes filles, baissant la tête, dociles, suivirent leurs sœurs. Elles descendirent dans la haute salle aux voûtes blasonnées où leur père soupait, enfoncé jusqu'au coude dans une chaire massive, à la clarté de cire pendue à la muraille. Il soupait là, le museau de ses Danois posé sur ses genoux, et des valets d'armes corsetés et coiffés de fer étaient rangés autour de lui, attendant ses ordres. Elles entrèrent, pareilles à 3 fées, et la vieille salle obscure s'éclaira d'une aurore. Car elles étaient presque nues dans de longues robes bruissantes de soie alourdies de pierreries, et leurs chevelures, ointes de parfums, rousses chez Mérilde et blondes chez Yvelaine, luisaient comme des flammes hors des bordures de perles et des béguins de brocart. Elles appuyèrent leur poitrine et leurs seins au dossier de la stalle, passèrent leurs bras nus autour du cou du duc, et serrées contre lui dans des poses suppliantes, avec des sourires, des câlineries de doigts, des mots de caresse, emplirent son anap d'un breuvage que la silencieuse Bérangère avait apporté. Elles y trempèrent en jouant leurs lèvres roses, puis, avec 1000 baisers, Yvelaine à genoux devant son père, Mérilde à moitié assise sur le bras de la stalle, imposèrent au duc jusqu'à trois rasades, tandis que Bélengère, son amphore à la main, se tenait droite derrière lui. Et quand le duc se fut assoupi, le hanap circula autour de la table. Les mains fines des duchesses l'offraient aux capitaines et aux soldats, et les yeux s'allumaient sous les rudes capulets de fer, et les cicatrices s'avivaient au coin des tempes et sur les joues, rendant les visages pareils à des masques. Car les jeunes duchesses, les épaules jaillies hors de leur corsage, riaient des lèvres et des prunelles, au valet comme au seigneur, appuyaient leurs doigts blancs sur les bouches, et parmi les gestes hardis et des ébauches d'étreintes, avaient l'air en vérité de trois jeunes courtisanes. Au loin, dans la nuit limpide, la viole chantait, la voix pleurait toujours. Et peu à peu, tous les hommes d'armes de la suite du duc s'assoupirent. Ils ronflaient, qui la tête sur la table, qui le buste écroulé dans un angle de mur, et dans le corps de garde, les sentinelles dormaient aussi, enivrées par le passage des trois duchesses, et dans toute la citadelle, montaient comme un râle. Un sommeil magique y tenait tous les hommes anéantis. Au loin, très loin, par les clairières irisées, les sentiers lumineux et les claires broussailles de la forêt lunaire, c'étaient des hennissements et le galop sonore de trois chevaux d'étalant, hop, sous bois, et c'était un fracas de hautes branches brisées, et dans un chuchotis effaré de jeunes feuilles, un gazouillis de nids réveillés au passage, des petits cris d'oiselets en émoi, une voix qui n'était plus plaintive, rassurée, et les branches, et les nids, et les feuilles, et à cette voix-là répondaient dans la nuit, pareilles à des trilles, les chansons et les rires de trois autres voix. Et quand le petit jour se leva sur le château ducal, les suivantes s'arrêtèrent, éperdues, au seuil du gynécée. Les trois duchesses avaient disparu. On trouva la poterne qui donnait sur la campagne, grande ouverte, avec la sentinelle encore debout auprès, le torse appuyé contre l'arceau, mais une dague au cœur. Elle avait été poignardée par une des trois jeunes filles, Bélengère, Yvelaine ou Mérilde. Une main inconnue avait, comme un défi, suspendu une guse de la bohémienne et une branche de genêt au blason de la porte. Tous les hommes de la garnison, mis sur pied, eurent beau fouiller le pays, on ne retrouva jamais la trace des duchesses. Jamais plus, d'ailleurs, ne passa par la ville la bande de bohémiens. Depuis l'aube naissante, les trois filles du duc se tenaient à la fenêtre.